Espace Médias Citoyens est un magazine qui vous propose des reportages réalisés par les salariés et bénévoles de la coordination des radios associatives non commerciales de Rhône-Alpes. Diffusion sur Couleur FM lundi, dimanche à 17h et mercredi à 11h.
L'usine de fabrication de fibres de viscose installée à Échirolles en région grenobloise a durablement marqué la vie économique de la région entre 1927 et 1989. Après sa fermeture, un musée a vu le jour pour perpétuer la mémoire d'un métier, mais aussi le souvenir d'une cité ouvrière et des milliers d'hommes et femmes qui ont vécu cette aventure industrielle aujourd'hui disparue. Échirolles aujourd'hui pour une nouvelle visite au musée. Je suis en compagnie d'Anne-Lise Michaud au musée de la viscose, un musée à la fois historique et social pour se souvenir d'un pan de notre histoire locale, celui d'une industrie qui a marqué la vie de l'agglomération durant plus de 60 ans, la fabrication de la soie artificielle, autrement dit la viscose. Anne-Lise, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir, de nous accorder quelques moments au musée de la viscose. Alors peut-être, en guise d'introduction, quelques mots pour nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est cette fameuse viscose.
Alors la viscose, on appelle ça aussi la soie artificielle, parce qu'en fait, jusqu'à très longtemps, l'homme utilisait la soie naturelle, mais c'était un petit peu compliqué à fabriquer. On a un petit élevage d'ailleurs de vers à soie pour les visiteurs, c'est toujours intéressant de voir comment c'était fabriqué. Et dans les années 1860, il y a eu la pébrine, donc une maladie qui a attaqué les mûriers, et il fallait trouver une autre façon de fabriquer de la soie naturelle. Et donc il y a eu des inventions, notamment celle de Hilaire de Chardonnay, dont on parle aussi au musée de la viscose, et qui va mettre au point, alors pas encore la viscose, mais une matière de soie artificielle, à savoir que la soie artificielle est fabriquée en fait à base de pâte de bois, donc c'est assez surprenant. Effectivement, il va y avoir des transformations chimiques, et on va arriver à produire un fil de soie artificielle qu'on appelait au départ la rayonne et ensuite qui est devenue la viscose.
Donc ça veut dire que la viscose sert essentiellement ou exclusivement aux vêtements ?
Alors pas exclusivement, en fait la viscose c'était un petit peu avant le nylon, l'arrivée des soies, des synthétiques. Donc la viscose on s'en servait effectivement pour s'habiller, mais aussi dans les pneumatiques, dans tout ce qui était cellophane, tout ce qui était éponge en fait était fabriqué en viscose pendant un certain temps. Oui.
Pourquoi cette industrie de la viscose s'est installée à Échirolles sur l'agglomération grenobloise ? Est-ce qu'il y avait aussi une industrie ailleurs en France ?
Alors en fait, il y a eu quand même 20 usines qui fabriquaient de la viscose en France. C'était Rhône-Poulenc Textile sur la fin, jusqu'à dans les années 80. Mais au départ, dans les années 1927, c'est la famille Gillet en fait, qui a acquis des terrains et qui s'est installée effectivement à Échirolles. C'est une famille qui avait beaucoup d'entreprises, notamment de teinture, qui était vraiment dans le milieu textile et qui a pu effectivement monter cette entreprise à Échirolles. Enfin, l'entreprise était à Grenoble, mais il y avait donc toute la cité ouvrière qui était sur Échirolles.
Qui a d'ailleurs été conservée en partie, puisqu'il y a tout un quartier à Échirolles qui réutilise les maisons des ouvriers de l'époque, qui ont été rénovées, bien entendu.
Oui, tout à fait. Alors, il y a toujours ce quartier. D'ailleurs, il y a eu aussi une petite installation avec des panneaux où on explique comment ça fonctionnait, cette cité ouvrière, puisque c'était une usine paternaliste. Donc, effectivement, il y avait ces installations qui étaient destinées aux ouvriers, avec toute une vie de quartier, des commerces, une église, une école. C'était vraiment fait pour que les ouvriers puissent s'installer avec leur famille. Et puis, ce quartier est resté, il y a eu des réhabilitations. Ça a été repris par l'OPAC, donc vous pouvez toujours traverser ce quartier qui est juste à côté du musée.
Ça leur a fait de la peine, mais maintenant, ils y vivent toujours. Et même ceux qui n'ont pas connu l'usine, ils connaissent l'histoire. En ce temps-là, les gentlemen grenoblois s'amusent avec le progrès. À leurs pieds, leur ville. À l'ouest, leurs usines. Et là-bas, tout au sud, un village de paysans et Chirolles. Il y a quelques années, une idée a germé en Angleterre. Les cités-jardins. Fini les taudis dans le centre des villes, place à des maisonnettes à l'écart de la ville, place à de la verdure, place à des jardins à bêcher. L'ouvrier peut enfin accéder au bonheur familial et bourgeois.
Alors cette industrie sur la région grenobloise, elle a existé pendant un peu plus de 60 ans, je l'ai dit, c'est-à-dire ça a commencé dans les années 20, c'est ça, 1927, ça s'est arrêté en 1989. Donc une industrie qui a marqué la vie de l'agglo pendant 60 ans, c'est finalement pas si long que ça. Alors pourquoi est-ce que ça justifie un musée ?
Alors c'était une volonté des ouvriers en fait, hein, qui ont récupéré des objets, des machines avec l'accord du directeur de l'époque. Au départ, ils ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient en faire. Hein. Il y avait un projet de faire un livre d'abord, parce qu'il y avait aussi tout un fonds photographique. La personne qui est à l'origine du musée, hein, Michel Sillol, s'occupait du club photo de l'usine. Donc il avait ce projet de faire une exposition, de faire un livre, et puis sous forme un peu associative, voilà, au départ est venu ce musée. Donc en 1992, hein, il a pu ouvrir. C'était un peu une sorte de mutuelle, de centre social en fait des ouvriers. Et puis petit à petit, ça s'est développé. Hein, ça a été repris donc par le département de l'Isère. Et puis depuis 2012, en fait, c'est la ville des Chirolles qui a repris la gestion du musée avec le centre du graphisme.
Le musée est donc installé dans une maison. Une grande maison, dont plusieurs étages sont consacrés à toutes ces expositions. Ici, notamment, nous sommes dans la salle vidéo, mais je vois juste derrière vous une grosse armoire avec plein d'objets aussi qui sont exposés. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les murs du musée de la viscose ?
Alors, c'est intéressant parce qu'on va avoir effectivement des machines, on voit des objets un peu de la vie quotidienne de cette usine, notamment la pointeuse, on va trouver la filature, ce sont quand même des grosses machines qui ont été importées de cette usine, avec aussi des documents papier. Par exemple, on va avoir des livrets des ouvriers avec des renseignements sur leur origine, le temps qu'ils ont travaillé dans cette usine, voilà, des choses assez, assez humaines. Hein. Donc on va effectivement trouver du textile aussi, hein, pour ceux qui aiment les tissus, vous allez voir des tissus, des échantillons à toucher, hein. Donc il y a vraiment toutes sortes de trésors à découvrir, hein, dans ce musée.
En quoi est-ce que ça nous apprend des choses sur la vie échiroloise et la vie grenobloise de manière générale, l'agglomération grenobloise ?
Alors on apprend notamment que Échirolles, avant l'arrivée de cette usine, hein, c'était un petit village de 800 habitants, et puis vont arriver, hein, donc toutes ces familles, beaucoup d'étrangers quand même, hein, il y a eu jusqu'à 40 nationalités de personnes qui vont venir s'installer, notamment des Italiens, des Hongrois, des Marocains, des Espagnols, enfin voilà, il y a eu tout un brassage de familles, hein, qui vont arriver s'installer à cette notamment la cité ouvrière dont je vous parlais tout à l'heure, et ça fait, voilà, ça change quand même le visage des Chirolles, puisque là, bon, à l'heure actuelle, on est quand même plutôt près des 36 000 habitants. Donc la ville des Chirolles a complètement changé. Et c'est vrai que l'usine de la viscose a quand même participé à cette transformation sur, voilà, 60 ans d'existence.
Moi, je sais que quand il y a la grande période, ça tournait à plein tube. Il y en avait 15 qui rentraient le matin qui étaient embauchés. Mais à midi, il y en avait, je sais pas, 7 ou 8 qui partaient, ils ne revenaient plus. Hein. Il y en a même qui ne revenaient même pas chercher les 4 sous qu'ils avaient gagnés la matinée. Hein. Pénible, et puis l'atmosphère. Les gaz, le picotement des yeux, et puis l'atelier, il faut dire que les ateliers n'étaient pas propres comme les derniers temps non plus. Hein. On marchait un peu dans la vase.
Je le disais en ouverture, le musée de la viscose, c'est à la fois un musée d'histoire, sur l'histoire de cette industrie, sur ceux qui la faisaient vivre, et du coup, c'est aussi un musée sociologique, quelque part.
Oui, on apprend aussi, hein, sur les méthodes de travail, notamment les grèves, enfin comment voilà les ouvriers aussi ont défendu leur temps de travail, leurs conditions de travail. Voilà, ça fait partie aussi de toute cette évolution en fait de la société du XXe siècle, hein, donc qui est très intéressante et qui apporte aussi voilà ce côté humain dans ce musée à travers ses collections.
Vous nous disiez que l'industrie de la viscose, il y avait une vingtaine d'usines en France, donc durant le XXe siècle. Est-ce qu'il y a d'autres musées un peu de ce type-là avec lesquels vous êtes en contact ?
Alors sur la viscose, c'est quand même quelque chose d'unique, hein, on peut le dire, en France. Après, bien sûr, au niveau du textile, il y en a d'autres, notamment à Bourgoin-Jallieu. On est aussi beaucoup en contact avec le musée dauphinois, par exemple, à Grenoble, où on a pu participer à l'exposition sur les dessous de l'Isère, par exemple, hein. Donc il y a aussi cette relation qui se crée au niveau local, et puis c'est voilà sur les conditions de travail, c'est toujours intéressant voilà d'apporter aussi parfois une trace. On a pu aussi prêter des objets par exemple à la Taz à Lyon, qui avait aussi une usine de viscose. Donc ce sont voilà des échanges intéressants entre différents sites patrimoniaux.
Est-ce que vous avez un fonds documentaire ici?
Oui, on a un fonds documentaire, oui. Donc effectivement avec des photographies, des objets qui nous ont été prêtés en fait, hein, par des familles d'anciens viscosiers. Voilà, il y a eu beaucoup de dons au départ, hein, au démarrage du musée, avec des photos de famille, mais aussi des photos d'ouvriers, de grévistes, voilà, qui ont vraiment jalonné cette histoire.
Parmi le public qui passe au musée de la viscose, est-ce qu'il y a une part de chercheurs, d'universitaires, d'étudiants qui viennent justement parce qu'ils sont intéressés par ce pan de l'histoire, de la vie ouvrière que représente le musée de la viscose?
Oui, tout à fait, ça fait partie aussi de notre public. Alors on a un public aussi assez familial, mais ces personnes un peu plus, on va dire, érudites aiment bien voilà chercher effectivement cette trace. C'est un peu la petite histoire, mais dans la grande histoire finalement, parce que ça retrace une histoire d'usine paternaliste, hein, comme il y en a eu d'autres à cette époque-là. Et voilà, ça permet d'avoir des éléments matériels pour s'appuyer effectivement sur des recherches.
Alors parlons un peu plus de l'accueil du public. J'imagine que comme tous les musées, vous ne dessinez pas forcément un public, une tranche d'âge particulière, même si les enfants très jeunes peuvent peut-être trouver un peu moins d'intérêt. Cela dit, peut-être que vous avez aussi des idées pour les intéresser, les enfants. Alors comment est-ce que vous travaillez un peu l'accueil du public ?
Alors on est ouvert donc là le premier dimanche du mois, hein, donc c'est aussi l'occasion de proposer une visite guidée ouverte à tous le dimanche à 16h, ce premier dimanche du mois. Sinon, je reçois aussi pas mal de scolaires, hein, notamment le matin en semaine. Donc ça peut être effectivement sur la collection permanente, hein, avec des visites, mais aussi parfois des ateliers qui sont en lien avec la collection permanente. Donc ça permet voilà d'ouvrir un petit peu à un public plus jeune, des centres de loisirs l'été, hein, par exemple. Et puis on a quelques temps forts dans l'année, hein, à savoir bien sûr les journées du patrimoine au mois de septembre, la nuit des musées au mois de mai. Donc voilà, ça fait partie des temps importants. On peut aussi proposer des animations, des spectacles, enfin voilà, ouvrir aussi un petit peu le musée sur des fois de la création, donc c'est intéressant. Par exemple, pour la nuit des musées, on avait accueilli effectivement une visite à la frontale. On avait proposé aussi du grave végétal. Hein, donc voilà, on essaye aussi de diversifier, de faire participer le public. C'est ça qui est intéressant, justement, d'apporter quelque chose d'un peu différent par rapport aux visites un peu plus classiques. Pour les journées du patrimoine, là, le 19 septembre, on aura une pièce de théâtre à 15h, hein, le 19 septembre, avec une compagnie de théâtre. Ce sont des jeunes comédiens qui nous propose une pièce de théâtre Débrayage, où effectivement on va mettre en scène le travail. Alors c'est une version un peu plus contemporaine sur les rouages du travail, hein, l'effet un peu des fois pervers qu'il peut y avoir dans le travail aujourd'hui.
Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans le coin vidéo. Alors, quel genre de film est-ce que vous présentez ?
Alors, dans la salle vidéo, on présente en fait Les Jardins de la Viscose. C'est un film qui retrace justement un petit peu tout ce qu'on dit, hein, tout au long de la visite. Mais là, il y a vraiment des images, des interviews. Et puis, on voit vraiment aussi la cité viscose telle qu'elle était, hein, plutôt dans les années 50, 60. Donc, ça donne aussi cet éclairage de cette portion de l'histoire.
Alors, on est arrivé là, bien entendu, sans connaître personne, un peu paumé. Et on a trouvé des gens formidables. Et de toutes les races, on peut dire. Hein, parce que, bon, nous, on était Français. En dessus, c'était un Yougoslave marié avec une Hongroise. De ce côté-là, c'était un Russe, le chauffeur du patron. En dessus, là, c'était des Français. Au milieu, des Italiens. Et en bas, des Italiens.
Voilà nos costumes polonais, voilà le théâtre. Mais alors là, tous les Français venaient, tout le monde venait. Hein. Les Hongrois venaient hein, à nos théâtres, c'était toujours plein. Il y avait les bals polonais, il y avait un accordéoniste qui descendait de la mule. Disons que c'était la belle époque, ça. C'était, oh, c'est notre jeunesse, quoi. Puisque c'est notre jeunesse, c'est toujours la belle époque. Hein.
On arrive à la fin de cette petite présentation. Alors, vous avez commencé déjà à donner quelques rendez-vous pour la rentrée de septembre. Est-ce qu'il y a certains événements à venir prochainement au Musée de la Viscose dont vous aimeriez nous toucher deux mots?
Je vous parlais des journées du patrimoine. Hein, donc, il y a effectivement cette partie qui est intéressante. Avec, bien sûr, des visites guidées toujours. Hein, donc, il y en aura le samedi à 16h, le dimanche aussi à 14h et 16h. Et en plus, l'intérêt, c'est que c'est l'occasion aussi de rencontrer des anciens viscosiers qui apportent vraiment leur version vécue hein, de l'histoire avec des anecdotes. C'est toujours intéressant d'avoir ce partage-là. Et ça se fait notamment, hein, ça se fera pendant les journées du patrimoine en septembre.
Des témoignages d'anciens viscosiers, puis on l'a compris, le musée est né d'une volonté, donc c'est un esprit associatif au début, pour perpétuer la mémoire de tout ce que ces gens ont fait ici et leur métier. Donc, la fabrication de la viscose, c'est quelque chose qui est encore dans le cœur de beaucoup de Grenoblois, des Chirolois.
Alors bon, il faut quand même relativiser aussi. C'était une entreprise très importante qui a apporté beaucoup d'emplois, mais les conditions de travail étaient quand même difficiles. Hein. Ça, il faut aussi l'avoir à l'esprit. Ça sentait mauvais, ça sentait l'œuf pourri. Hein, même les habitants autour l'ont vécu. Les conditions étaient difficiles. Ils étaient quand même baignés dans des produits toxiques, enfin chimiques. Donc c'était quand même des conditions difficiles, mais c'était quand même des emplois, hein, donc il ne faut pas négliger. Jusqu'à 2000 ouvriers ont travaillé dans cette usine. Et puis ça a été, certains sont toujours fiers de dire mon grand-père, mon père, ma mère ont travaillé à l'usine, parce que c'était aussi un savoir-faire hein, très important à Grenoble. Alors malheureusement, la viscose ne se fabrique plus en France, hein. Maintenant elle se fabrique en Asie, puisque c'est quelque chose qui a été complètement arrêté en France.
Merci Anne-Lise pour cette présentation, bonne route au musée de la viscose, bonne continuation.
Merci à vous et puis à bientôt.
Le musée de la viscose vous attend à Échirolles, 27 rue du Tremblay. Information au 04 76 33 08 28 33 08 28 et sur internet sur le site de la ville www.ville-échirolles.fr.
Espace Média Citoyen est un magazine qui vous propose des reportages réalisés par les salariés et bénévoles de la coordination des radios associatives non commerciales de Rhône-Alpes. Diffusion sur Couleur FM lundi, dimanche à 17h et mercredi à 11h.